Le thème que je dois développer aujourd'hui n'est pas duplication, mais délégation et travail à distance. Donc, c'est les sujets que j'ai eu le plaisir de me voir confier. Et c'est vrai que moi, je suis très heureux d'être avec vous. On a une petite trentaine de minutes à passer ensemble. Je vais essayer de vous communiquer des choses un peu techniques et vous dire que je suis très fier d'être sur cette scène puisque ça fait maintenant 13 ans. Lundi, ça fera 13 ans que j'ai découvert ce projet. Donc je vais fêter mes 13 ans de découverte de NL International. C'est une belle période, 13 ans. Et ça fait le 12e voyage que je fais avec l'équipe. Le premier était en Égypte en 2004. Et j'ai été pendant des années et des années assis à votre place, pour les gens qui sont là pour la première fois, à écouter des intervenants, à me nourrir, pour pouvoir vraiment chercher à construire quelque chose de grand avec tout ça. Et c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur et de privilège que je suis devant vous pour essayer de partager avec vous des éléments que j'ai pu découvrir au cours de ces 13 années. Et pour moi, il y a deux états d'esprit dans le projet. Il y a l'état d'esprit de « je gère un petit groupe » et il y a l'état d'esprit de « je suis en train de bâtir une grande organisation internationale ». Et ces deux attitudes, on y passe en général par les deux. Et dès qu'on retourne dans la notion de gestion, faut vite repasser dans l'autre catégorie qui est celle de bâtir quelque chose d'important. Parce que, en gros, si je suis en train de gérer un groupe, et quand je dis un petit groupe, c'est-à-dire qu'on peut être tuteur, tuteur 1, tuteur 2 et gérer un groupe, je suis pas dans une démarche de conquête où je suis en train de construire une organisation. Et si je gère un groupe, je suis en train de faire le tourneur d'assiette, c'est-à-dire de faire tout le travail et d'essayer de motiver les mêmes personnes. Et à un moment, je vais rentrer dans une phase où je vais même être en train de me plaindre et de faire du négatif sur les résultats et de faire de rentrer dans la notion de stakose, stakose de mon groupe, stakose de ma lignée, stakose d'NL International, stakose de la piña colada. Et en gros, si je veux faire grandir mon organisation, je pense que ce qui est fondamental, c'est d'être dans une notion de conquête et de construction, de bâtir une grande organisation. Ce qui va amener à chercher à construire des relais. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une grande organisation avec plein de gens motivés qui font des choses? Cool. Parce que c'est important de construire des relais, et pour moi, les deux notions que je dois aborder aujourd'hui sont celles qui vont permettre de construire des relais intéressants. Donc la première notion, c'est la duplication, la deuxième, c'est le travail à distance, qui sont un petit peu liés, et comprendre que notre métier, il évolue au fur et à mesure. Quand on découvre le projet, on est dans le faire. Voilà, j'apprends des choses, je suis en train de produire, de faire des actions, et puis à un moment, je vais être dans le faire-faire. Je vais essayer de provoquer le fait que des gens soient actifs dans mon réseau et fassent des choses sans moi. Mais ce qui est très intéressant, c'est de rentrer dans la troisième phase, qui est le faire-faire-faire. Le faire-faire-faire, c'est d'aider des gens à devenir eux-mêmes capables de guider et de construire un groupe sans même que vous soyez là. C'est-à-dire construire plusieurs générations de leaders. Hein, c'est en gros apprendre à enseigner à des apprenants comment l'enseignement d'enseignants peut enseigner à des enseignants l'enseignement d'enseignants. C'est apprendre à des duplicateurs comment dupliquer la duplication à des duplicateurs qui dupliquent eux-mêmes à d'autres duplicateurs la duplication. C'est super comme concept. L'idée, c'est que votre temps va se démultiplier et ça a beaucoup d'intérêt. En gros, il y a vraiment cette notion de chasseur, éleveur, cultivateur. Le chasseur, c'est celui qui va produire, il a besoin d'apprendre à chasser pour lui. Moi, je suis pas un bon chasseur. Je chasse par nécessité, mais je chasse quand même parce que c'est important. Et j'apprends à chasser surtout dans la profondeur de mon groupe, mais ça sera un des sujets qui sera abordé plus tard. Après, il y a l'éleveur, celui qui arrive à créer une ambiance, à fédérer une équipe, etc. Et le cultivateur, c'est vraiment celui qui produit quelque part des gens qui ont l'ambition de devenir tuteur et qui vont eux-mêmes devenir les acteurs et les pilotes de leur propre affaire. Et c'est intéressant de comprendre qu'on a ces différents degrés pour comprendre comment on peut vraiment rentrer dans une notion de duplication et de délégation. Alors la délégation, pourquoi ? Moi, j'ai vite compris qu'il valait mieux que je profite de 1% du travail de 100 personnes que de 100% de mon propre travail. Ça vous parle, ça? Donc pour ça, je me suis dit, voilà, il va falloir que j'apprenne à déléguer, qu'il y ait des choses qui se fassent sans moi. Ce qui a été difficile parce que moi, je suis un garçon assez perfectionniste, je pense comme beaucoup de gens dans cette salle, et je me suis toujours dit, si c'est pas moi qui fais le travail, il sera moins bien fait que si c'était moi qui le faisais. Il y a des gens à qui ça parle, ça? Et souvent, quand on n'a pas assez de travail, et quelque part, on se le garde. C'est pour ça qu'il faut, pour pouvoir rentrer dans une notion de délégation, une grosse largeur et un groupe qui soit un véritable bordel organisé. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus tout gérer, vous serez forcé et contraint de déléguer des choses. Et on a souvent envie de tout maîtriser, Mais tant qu'on est dans la maîtrise du groupe, on ne pourra pas arriver dans une situation où on va construire des relais parce qu'on est encore en train de tout maîtriser et souvent de vouloir faire le boulot. Donc le mieux est l'ennemi du bien et on a besoin à un certain moment, comme dirait mon sponsor Michel, d'investir dans un manque à gagner. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, s'il y a des choses qui sont moins bien faites que vous, c'est pas grave, puisque de toute façon, elles seront faites et ça va démultiplier le temps. Et c'est notre objectif à tous, quelque part. Donc effectivement, si quelqu'un fait les choses à votre place au début, eh bien, ça sera moins bien fait que si c'était vous qui les faites, mais ça sera fait quand même, et ça vous permettra d'avoir au fur et à mesure de plus en plus de gens qui se mettent au travail. Alors moi, j'ai un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'organisation. Je travaille beaucoup là-dessus, je lis beaucoup de bouquins, parce que j'aime bien gérer 7, 8, 10 projets en même temps, je travaille avec des gens qui m'inspirent beaucoup dans le domaine, et dans la notion d'organisation, il est écrit que quand on fait un rendez-vous avec soi-même, et puis qu'on fait une to-do list, et qu'on marque toutes ses tâches sur un cahier, etc., pour se vider la tête et être productif, etc., il y a 4 possibilités sur les tâches qu'on a marquées. La première, c'est je la fais immédiatement dans les 5 minutes, là tout de suite j'ai une tâche, elle est notée, il faut que je l'accomplisse maintenant, parce que c'est possible de les faire dans les 2 à 5 minutes. La deuxième possibilité, c'est je le reporte dans mon agenda ou quelque part où il y a une date, quelque chose qui va me le rappeler. Troisième possibilité, c'est je l'élimine. Et voilà, ça je le mets à la poubelle, je le ferai pas, tant pis. Et la quatrième possibilité, c'est je délègue cette tâche à quelqu'un qui pourra le faire. Et déléguer ne veut pas dire se décharger, qu'on se comprenne bien. Des fois, il y a des gens qui se délèguent, qui se déchargent bien de tâches et de missions à faire. La délégation, c'est vraiment permettre à des gens de prendre une mission en main et de l'accomplir avec efficacité. Donc, j'ai noté plusieurs points. Le premier point pour, à mon sens, hein, encore une fois, ce sera que mon ressenti et ma façon de voir les choses. Vous prenez ce que vous voulez dans cette intervention et dans ce partage d'expérience. Mais le premier point pour pouvoir déléguer des choses à quelqu'un, à mon sens, c'est d'avoir une véritable confiance entre vous et la personne à qui vous allez déléguer cette tâche. Et cette confiance, elle peut s'acquérir rapidement. Même si on rencontre des gens qu'on connaît pas très bien, on se rend compte que des fois sur un contact à froid, on peut rapidement créer du lien avec quelqu'un. Le premier point pour que quelqu'un vous fasse confiance, c'est vraiment de jouer sur cette notion de relation. C'est le cœur de notre métier, c'est ce qui fait notre force, cette notion de connexion où on apprend à créer du lien. D'ailleurs, vous serez d'accord avec moi que des fois on a l'impression dans cette activité que on connaît mieux les gens avec qui on travaille depuis un an que des gens avec qui on a bossé parfois pendant 10 ans. Vous êtes d'accord avec ça ? Parce qu'il y a une vraie connexion qui se crée, et pour créer cette connexion et cette confiance, bah, il faut faire preuve d'écoute, apprendre à connaître la personne. Voilà, moi je sais que il y a pas longtemps, on avait un de nos prospects avec qui on a été dîner, avec Sabrina. On a passé une soirée avec lui. Je n'ai fait que lui poser des questions. Il me trouve génial, comme dirait le livre « Comment se faire des amis », j'ai quasiment pas parlé, mais je sais exactement le nom de ses enfants, l'âge de ses enfants, ce que font ses enfants, sa situation personnelle, je sais qu'il est en train de racheter son commerce, etc. Je sais tout. Pourquoi ? Parce que je veux apprendre à le connaître, et c'est vraiment dans la notion d'écoute que vous allez créer ça, en donnant un 10 à chacun, en cherchant auprès des gens à chercher les meilleures qualités, entre guillemets. Parce que si vous êtes en train de regarder les défauts de la personne, ça va être compliqué qu'elle soit en confiance avec vous. Donc faut toujours chercher à faire ressortir le meilleur et chercher à donner de l'importance à la personne. Si la personne elle se sent importante, à vos yeux, elle va avoir beaucoup plus facilement tendance à vous écouter et à faire ce que vous dites. Ce que j'ai noté également pour quelqu'un vous fasse confiance, c'est qu'il faut avoir un engagement irréprochable. C'est-à-dire que moi, quand je m'engage avec quelqu'un, la personne, elle sait qu'elle peut compter sur moi si je lui dis que j'allais faire quelque chose. En 13 ans, c'est très très rare le nombre de fois où je suis pas venu faire une présentation ou quelque chose sur lequel je me suis engagé, parce que ça, c'est quelque chose qui peut créer une fissure dans la confiance. Si la personne, vous lui dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites pas, ou si vous annulez un rendez-vous, c'est très compliqué. Si j'annule un rendez-vous ou une présentation, je vérifie qu'il y a quelqu'un qui peut me remplacer ou que je laisse pas la personne en difficulté, par exemple. Donc ça, c'est important parce que si vous êtes irréprochable dans votre engagement, les gens vont avoir une vraie tendance à vous faire confiance et à dire « Ok, s'il me demande quelque chose, c'est que c'est important pour moi. » Et puis, j'avais noté « pensée perso, pensée réseau ». Moi, je fonctionne toujours là-dessus. Et pour moi, il y a 2 façons de raisonner dans l'activité. Je pense perso. Je pense réseau. Pensée perso, c'est combien je fais de PV personnel, quelle sera ma qualification, est-ce que je vais écouter le CD audio, est-ce que je vais aller à la prochaine formation. Okay ? Pensée réseau, c'est à qui je vais faire profiter de tout ça. Moi, je viens ici à Marrakech pour prendre plein de choses personnellement. Et c'est génial parce qu'à chaque fois, j'y viens avec une vraie attention. Je trouve ça génial d'écouter des gens partager leur expérience, etc. Mais je pense réseau, mon objectif, c'est de savoir combien de personnes vont m'accompagner dans cet événement. Et en gros, quelqu'un qui fait tuteur, c'est pas quelqu'un qui a réussi à faire tuteur. En fait, penser réseau, c'est comprendre que c'est quelqu'un qui a réussi à aider 5 personnes à faire star. C'est une vision très différente des choses, entre se dire « j'ai fait tuteur » et « j'ai aidé 5 directions à construire leur star. Et c'est en pensant réseau, en pensant à la qualification de la personne, plus ce que ça va lui apporter à lui que ce que ça va m'apporter à moi, que je vais pouvoir avoir une confiance qui va me permettre de rentrer dans ce jeu de délégation. Alors la délégation, deuxième point, après la confiance, c'est que pour moi, il faut avoir une délégation progressive. C'est comme dans les niveaux de communication. Vous avez remarqué que dans notre activité, surtout quand on s'adresse dans une assistance à un public très varié, tout le monde n'a pas le même degré de compréhension, la même maturité, etc. Donc nous avons besoin d'adapter notre communication en fonction du public qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que si j'ai un nouveau qui n'a pas signé, mon discours il va aller vers cette personne. Là ici je sais qu'il n'y a que des stars 5000, donc mon speech il a été construit dans l'optique de m'adresser à des gens qui sont stars à 5000. Et dans la délégation, c'est un petit peu pareil. Moi, je dis souvent, pour imager ça, on donne pas de la viande rouge à un bébé nourrisson. Avant, il y a du lait maternel ou du lait en poudre, etc. Et au fur et à mesure, on va adapter son alimentation en fonction de sa croissance et puis de son âge. Et ben, dans la délégation, c'est un petit peu la même chose. Il va falloir progressivement déléguer des choses en fonction du niveau de maturité, de compréhension, de résultat de la personne et de compétences. Et il y aura ce que j'appellerais un indice de délégabilité. Un indice de délégabilité, ça veut dire que moi je vais avoir un indice de 1 à 10 de fiabilité et de compétence auprès de quelqu'un. Je sais que j'ai besoin de savoir si la personne, si je lui confie quelque chose, est-ce que je peux compter sur lui à 100%. Et il y a plein de choses qu'on peut déléguer. Qu'est-ce qu'on peut déléguer ? On peut tout déléguer. Mais on va déléguer en fonction du niveau de la personne. En gros, la dernière chose que moi je vais déléguer, c'est la promotion. La promotion d'un événement, quel qu'il soit, c'est rare. Ou c'est la dernière chose que je vais laisser entre les mains d'un leader ou d'un relais potentiel, parce que je sais que la clé, c'est que les gens soient dans les événements. Donc pour moi, c'est vraiment le dernier point de délégation quasiment, c'est la promotion des événements, du système, du congrès, etc. Donc mon speech, c'est pas la promotion, mais c'est vraiment ce point-là que je vais lâcher en dernier. Donc je vous dis ça parce que souvent, on va avoir tendance à dire, bah voilà, je rentre, là il y a le séminaire le 12, moi je vais appeler une ou deux personnes et puis les gens de mon groupe vont faire le reste. Pas du tout. Moi, je vais appeler personnellement toutes les personnes qui sont dans ma largeur et qui n'avaient personne qui était présent sur cet événement. Après, on va avoir toutes les tâches effectivement de productivité. Ce que j'appelle les tâches de productivité, c'est simple, hein, il y en a 5 et c'est les plus importantes pour que votre groupe explose en termes de volume et de chiffre d'affaires. C'est R0, R1, R2, RBE, PO. Voilà, moi souvent, Michel, quand je travaille avec lui, il arrive pour travailler dans un groupe et il me dit qui fait quoi là-dedans. Bah, c'est tout. Qui présente le projet, qui fait des rendez-vous de complément d'information, qui fait des listes de noms 2.0, qui présente les produits, parce que c'est ce qui va déterminer votre puissance de frappe en termes de réseau. Et là-dessus, bah, moi je vais chercher, pour déléguer ces actions, à montrer l'exemple sur le terrain. Pour déléguer des choses, pour moi, efficacement, il faut que je sois sur le terrain en train de les montrer. Et une des meilleures façons pour déléguer, c'est de se faire accompagner. C'est-à-dire à chaque fois que je vais faire une PO, un RBE ou un suivi ou une liste de noms, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui soit là à côté de moi pour me voir faire. Et quand je vais démarrer quelqu'un en profondeur, je vais faire en sorte que la personne qui est dans sa lignée ou un des intermédiaires, je vais l'impliquer dans la construction. Par exemple, quand on démarre quelqu'un dans notre méthode, souvent il faut faire la liste de noms, il faut faire les invitations avec lui, il faut faire une ou deux PO et un ou deux RBE. On est d'accord là-dessus. À côté, bien sûr, on va essayer le plus rapidement possible d'aller voir le prospect naturel, faire du braconnage pour essayer de trouver des prospects plus rapidement, pour donner du rythme, etc. Mais la clé, elle est dans le fait de pouvoir mettre une méthode en place quand même pour donner un cadre et que la personne, elle suive un processus quelque part. Et si je démarre quelqu'un dans la profondeur de mon réseau, je vais pas faire toutes les actions, j'ai pas le temps. Donc je vais peut-être, par exemple, choisir en fonction de l'indice de délégabilité de mes associés intermédiaires, je vais dire à l'un d'entre eux, bah tiens, je te programme une liste de noms ici avec cette personne qu'on vient d'inscrire. Et en fait, au moment du rendez-vous de complément d'information, je vais appeler, s'il n'est pas avec moi, cette personne, et je vais programmer moi-même le rendez-vous avec lui dans son agenda. De la même façon, je vais dire, bah voilà, il y a deux PO, deux RBE, bah on va quelque part se partager le boulot. Moi, je vais faire une PO ici, je vais venir faire les invitations. Par contre, les deux RBE et la PO, bah je vais appeler ou programmer avec la personne qui est avec moi les choses dans leur agenda. Et en gros, ça va vous permettre au fur et à mesure d'avoir des gens qui rentrent dans ces champs de compétences de productivité. Des choses qu'on peut déléguer plus rapidement et qui sont assez faciles, c'est par exemple cuisiner les produits. C'est par exemple faire visiter les sites internet. C'est par exemple installer les applications. Je sais que là, il n'y a pas d'enjeu majeur, c'est-à-dire que si la personne va faire un rendez-vous avec son associé pour lui montrer comment fonctionnent les applications, il y a moins de chances qu'elle se démotive ou qu'elle foire le boulot, à côté d'une PO où, quelque part, s'il y a 15 personnes dans le salon et qu'elle fait un truc désastreux, c'est compliqué. Non ? Donc en fait, vous avez tout ça. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est prise de parole en public. Il y a le fait d'être hôte dans une soirée de formation, d'être hôte dans un séminaire. Il y a plein de choses à déléguer. Ça, la partie séminaire, bah, c'est plus Guy qui gère avec la section formation. Mais vous avez besoin de faire une liste de toutes les choses à déléguer et en fonction de la personne, lui donner au fur et à mesure des choses à faire pour qu'elle grandisse. Moi, Michel, il m'a toujours fait faire des choses que j'étais pas prêt à faire quelque part. Et il m'a jamais laissé vivre sur mes acquis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais content d'avoir fait quelque chose, il m'envoyait sur l'étape suivante, puis sur l'étape suivante, puis sur l'étape suivante. Par exemple, la première fois que j'ai pris la parole dans un week-end de formation, je m'étais dit, ça y est, c'est l'apothéose, etc. J'ai fait le truc qui tue. Puis après, juste après, il m'a envoyé faire un truc en Pologne avec Sabrina. Il a à chaque fois fait en sorte que je fasse des choses qui me déstabilisaient. D'ailleurs, pour avancer dans la vie, quand on veut marcher, ce qui est mon cas, la marche, c'est une succession de déstabilisations quelque part. Et si vous voulez grandir et faire grandir les gens surtout et déléguer des choses, il faut leur faire faire des choses parfois qu'ils sont pas tout à fait prêts à faire. En gros, ce que j'ai envie de mettre en troisième point, c'est qu'on ne peut déléguer efficacement des choses que si on les fait soi-même déjà correctement. C'est-à-dire que c'est compliqué d'essayer de faire faire 1000 PV à quelqu'un si on sait pas faire 1000 PV. C'est compliqué de déléguer à quelqu'un l'animation d'un RBE si on sait pas le faire. Pourquoi ? Parce que il va falloir, quatrième point, expliquer clairement ce qu'on attend d'elle et faire un briefing et un débriefing à chaque fois. C'est-à-dire que si on veut que la personne elle grandisse dans la notion de délégation, il faut, avant l'action, lui demander clairement ce qu'on attend de lui et après l'action, débriefer et voir ce qu'on pourrait améliorer ensemble. Parce que si on fait pas ça, la personne elle peut pas s'améliorer, elle peut pas grandir. Donc c'est important pour chaque chose que vous allez déléguer de faire un briefing et un débriefing. Moi, je sais que Michel, quand j'ai fait ma première PO en salon, il m'a appelé 2 jours avant pour savoir comment je l'organisais, ce que j'allais faire. Et puis, il m'a rappelé après, le lendemain, j'étais assez surpris parce que c'est une époque où il avait du mal à créer la relation avec moi. J'avais 19 ans et puis c'était à mourir de rire. Parce que je me rappelle à l'époque, je lui ai dit, Michel, j'ai fait tout comme toi, tout pareil. C'était exactement pareil. Et quand tu vois l'énergumène et la personne que j'étais à l'époque, je pense pas que ça soit exactement tout pareil ce qui s'est passé. Mais bon, bref, on s'est bien marré et ça, c'était intéressant. Il faut aussi donner sa confiance à la personne. En fait, moi, à chaque fois que je délègue quelque chose, je vais vraiment, quelque part, apporter ça comme une mission. Michel aussi, il me fait ça souvent. Je me rappelle un jour, Jean-Jacques n'a pas pu venir à une présentation. C'était la première PO en salle à Caen. C'est la première fois que, en fait, j'ai dû me retrouver dans une situation un peu extrêmement déstabilisante parce que il avait des choses en Martinique qu'il devait régler rapidement. Donc, il a pris un avion d'urgence. Merci, Jean-Jacques, ça m'a permis de grandir. Et Michel m'a appelé, il m'a dit « Nico, t'as une promotion ». Tu vas faire la PO en salle ce soir. Et nous, on avait invité avec Sabrina toute notre liste trouille. On avait dit, il y a un garçon professionnel qui vient de l'Est de la France, qui a vraiment du métier, etc. Et le soir même, t'arrives, tu dis, voilà, c'est moi. Voilà, c'est compliqué, mais ça fait grandir. Et Michel, il m'a délégué cette mission parce que de toute façon, il avait personne d'autre à qui la déléguer. Donc, c'est intéressant de donner sa confiance et voilà, d'amener ça comme une mission. Je sais que Michel, quand il savait pas encore s'il devait être là, je lui ai envoyé un petit texto. Je lui ai dit, est-ce que je peux faire quelque chose sur place? Est-ce que je peux t'aider? Il me dit, bah, il faudrait que tu me trouves du lait de soja. Alors, je demande à Karine, elle va voir à l'accueil, ils connaissent pas, etc. Et puis, je savais qu'il y avait Marie et Joël. Ils allaient au mall, alors je leur ai délégué la mission. Je leur ai dit, j'ai une mission super importante pour vous. Et j'ai délégué la recherche du lait de soja. C'est une délégation vachement importante. Et je leur ai vendu le truc en disant, mais c'est super important là, vraiment, etc. Parce que chaque petite tâche va être importante dans la construction de notre réseau. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, vous pourrez déléguer le lait de soja à quelqu'un. Ça permettra de grandir. Dernier point, il faut être dans la notion de coaching. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se prennent en main. Et c'est la difficulté parfois des gens qui sont entrepreneurs et qui prennent beaucoup d'initiatives. C'est qu'on aimerait que tout le monde soit comme nous. Alors que pour déléguer et aider les gens à grandir et à se mettre au travail, il faut rentrer dans un phénomène de coaching et d'accompagnement. C'est-à-dire de vraiment prendre la main des gens et au départ, pour les mettre sur les rails, de donner des étapes et des choses claires à faire. Michel, je le cite souvent, on a le sponsor qu'on mérite. Souvent, il dit pour plaisanter, quand les gens leur demandent « qu'est-ce que c'est ton métier ?», il dit « moi, je suis médecin. Je soigne les portefeuilles. Et moi, pour plaisanter avec mes associés qui viennent à la maison, je leur dis, bah, moi, je te fais une ordonnance. Et avant que la personne, elle parte, je note tous les points que je veux qu'il fasse jusqu'au prochain rendez-vous où on va se revoir. Terminer sa liste de noms, acheter tel bouquin, réserver sa place de congrès. Et je vais donner une série de tâches claires et précises à faire pour que les gens, ils aient un cadre. Et ils ont besoin d'un cadre. Notre affaire, c'est vraiment plein d'informations dans tous les sens. Et si vous voulez devenir des vrais constructeurs professionnels, vous avez besoin de donner un cadre aux gens pour qu'ils comprennent bien ce que vous attendez d'eux. Et si vous faites ça, vous allez gagner énormément en efficacité. Je sais que c'est pas toujours évident quand nous on fait les choses par nous-mêmes et qu'on n'a pas attendu auprès des personnes, mais c'est vraiment important. En gros, je terminerai sur la partie délégation en vous disant qu'en gros, voilà, vous avez besoin de chercher à devenir les meilleurs relais, d'avoir le meilleur indice de délégabilité pour votre lignée. Plus vous serez quelqu'un de fiable sur qui on peut s'appuyer pour déléguer des choses, plus vous aurez une relation de confiance, plus vous aurez une relation de proximité avec votre lignée. Et c'est important parce qu'un grand leader doit avant tout être un grand serviteur et être au service va vous permettre d'avoir des gens qui vont dupliquer ça. J'accélère puisqu'il me reste très peu de temps sur la partie travail à distance. Alors ça va être un survol, mais c'est vrai que le travail à distance, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que si vous voulez construire un grand réseau, une grande organisation, vous ne pourrez pas le faire sur le plan local. Pourquoi ? Parce que construire un réseau à distance en France ou à l'international, ce qui est aussi un sujet passionnant, ça va vous permettre de créer du mystère et de la magie. Du mystère et de la magie, pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous avez un groupe, si petit soit-il, à 200 km de chez vous, eh bien, les gens ne savent pas ce qui se passe dans votre propre groupe. Et quand vous partez faire une PO, même s'il n'y a que deux prospects, en Allemagne, en Espagne, dans le sud de la France ou à 200 bornes de chez vous, quelque part, les gens ils disent « Waouh, il construit une affaire internationale un peu plus loin, etc. » Et ça crée du mystère, quelque part de la magie, parce que votre groupe, s'il est seulement local, il voit tout ce qui se passe. Donc c'est aussi créer de la sécurité. Parce que quand quelqu'un éternue, tout le monde s'enrue, mais si vous avez une phase de décroissance et que tout le monde se regarde en disant quand est-ce que l'autre il va avancer, c'est compliqué. Si vous avez un groupe à distance, tout le monde le voit pas, il y a des choses qui vont avancer malgré qu'il peut y avoir une petite baisse de régime et ça nous arrive tous dans une des régions dans lesquelles on travaille ou dans un des pays dans lesquels on travaille. C'est aussi une nécessité parfois quand on est bloqué dans une situation, le fait de pouvoir travailler à distance vous permet de sortir d'un blocage. Moi, j'ai plein de moments où j'étais en train de chercher à creuser la quatrième, la cinquième ou la sixième génération dans un groupe et j'étais bloqué parce que j'avais des gens qui étaient quelque part pas assez relais, qui étaient trop sur le dos de leur nouveau, voilà, vous voyez, des gens qui n'étaient pas ultra performants. Et des fois, démarrer quelqu'un à 400 ou à 500 bornes ou à 200 bornes, eh bien, ça permet de pouvoir aller travailler tranquillement sans qu'il y ait tous les intermédiaires sur le dos parce qu'eux, ils n'ont pas forcément les moyens, l'envie, la motivation d'aller tout de suite chercher à se déplacer. Et c'est pour leur rendre service en plus, parce que vous allez amener un chiffre d'affaires, un volume, des revenus pour eux. C'est pas pour les évincer, hein. Après vous allez les intégrer, impliquer les intermédiaires, mais quelque part, le fait de travailler à distance vous permet de sortir de situations bloquantes parfois dans la recherche de profondeur ou dans la construction. Ça va vous permettre d'être plus productif, parce que quand on fait 1000 km pour aller faire une PO, eh ben on essaye qu'elle soit la plus rentable possible, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on prend un avion pour faire une PO quelque part et qu'on investit de l'argent, qu'on investit du temps, qu'on se déplace, eh bien, on vérifie si les invitations ont été bien faites. On vérifie si ça a bien été verrouillé. On fait en sorte de mieux faire le travail. Et on devient beaucoup plus performant après sur ce qu'on fait à côté de chez nous. Parce qu'on se rend compte que l'action que je fais à 500 mètres de chez moi, elle a autant d'importance parce qu'elle prend autant de temps quelque part et qu'elle peut amener autant de motivation qu'une que je vais faire à plusieurs centaines de kilomètres. Et puis ça va amener de la culture puisque dans toutes les régions dans lesquelles vous allez développer, les locaux se feront un plaisir de vous faire déguster mes breuvages locaux pour que vous puissiez devenir plus cultivé dans le domaine. 6 points pour conclure en 5 minutes, il me reste. Pour construire à distance, il faut le décider. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut en avoir envie. Il faut avoir un désir ardent, une envie folle de se dire « Je veux bâtir une organisation qui sera pas juste un petit groupe local, mais quelque chose d'international. » Il faut avoir cet esprit-là. Moi, le premier séminaire que j'anime avec Sabrina, on va à Aix-en-Provence et Jean Fesse nous fait l'honneur de nous inviter pendant une semaine. Et je me rappelle très bien, et on a souvent cité cet exemple, nous on arrive avec une bagnole, une ZX pourrie, couleur vert et rouille. On n'a même plus d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, à tel point qu'on arrive au point mort chez Jean qui nous prête sa voiture pour la semaine et qui nous permet de vendre des bouquins de développement personnel dans son groupe pour qu'on puisse financer un plein. On retourne après faire une autre réunion à Angoulême, on crève un pneu sur la route, on fait un chèque en bois. Mais pendant le séminaire, une semaine avant, on était en train de dire qu'on allait construire une grande affaire internationale. Et on était fauchés. Sauf qu'on était avec une vraie volonté, une envie folle de construire ça. Le désir et l'envie. Après, deuxièmement, si vous avez le désir et l'envie, vous allez chercher à identifier dans les listes de noms. Des fois, on se dit, mais moi, je connais personne au Canada. Vous seriez étonné la facilité avec laquelle les gens nous donnent des contacts à l'international plutôt que des contacts à côté de chez eux. C'est génial parce qu'ils sont super fiers et contents de vous dire « Eh, je connais un mec à Montréal ou je connais un mec en Angleterre ou en Allemagne », ça le valorise. Et donc vous allez extraire des gens à distance beaucoup plus facilement que des gens à côté de chez vous. Et ça c'est vraiment intéressant, donc vous allez chercher à identifier quelqu'un, à trouver un interlocuteur, à trouver des gens Et après, vous allez chercher à tester le nouveau. C'est-à-dire que moi, avant de me déplacer, je vais voir s'il a bien commandé ses produits, s'il les teste, s'il achète un bouquin, s'il est prêt à se déplacer à un séminaire. Et puis, le quatrième point, c'est que je vais ensuite lancer la machine. Ce que je veux vous dire, c'est que toutes les actions de productivité aujourd'hui peuvent être faites par Skype. Moi, j'adore faire des listes de noms 2.0 avec des gens. Je fais un Skype à 3, vous pouvez partager l'écran. Et en gros, l'idée, c'est que je vais prendre quelqu'un qui est chez lui, je vais prendre quelqu'un dans son groupe, je vais avoir moi-même le tableau de liste de noms et je vais partager mon écran. Et je vais poser des questions et je vais noter les noms moi-même. Et il les voit s'afficher sur l'écran. Et je forme quelqu'un qui est chez lui à regarder une personne faire sa liste de noms avec moi sans me déplacer. Parce que des fois, si je fais 200 bornes pour aller faire une liste de noms et 200 bornes pour revenir, qui a gagné ? La pompe à essence, quoi. L'idée, c'est qu'à un moment, il faut chercher à économiser l'effort, économiser le temps. Et un R0, ça se fait par Skype. Une PO, ça se fait par Skype. Un RBE, moi, j'ai un peu plus de mal parce qu'il y a la dégustation, mais pourquoi pas ? Vous pouvez tout faire à distance. Et tester le nouveau, ça vous permet de vraiment voir s'il est motivé à faire des choses. Et après, vous lancez la machine, vous y allez une première fois pour lancer une dynamique. Voilà, vous sentez que vous avez un interlocuteur qui se déplace, qui vient se former. On y va. Et puis, après, le cinquième point, c'est occuper le terrain. C'est-à-dire que on peut ne pas être sur le terrain, mais occuper le terrain. Grâce à tous les outils qu'on a à notre disposition, grâce aux webinaires, grâce à Facebook, au groupe Facebook, WhatsApp, tous les systèmes qui vous permettent de communiquer de façon collaborative. Aujourd'hui, moi je suis pas partout dans mon groupe, mais j'occupe le terrain. Je suis présent, j'anime, je fais vivre mon groupe parce que je suis présent grâce à des tas d'outils. Donc retenez cette image, c'est pas parce que je ne suis pas sur le terrain que je n'occupe pas le terrain. Et quand j'anime une partie de mon groupe, ça me permet de m'investir dans la construction à un autre endroit. Et je fais en sorte, si je suis pas en train de construire quelque part, à garder une animation, un contact avec le reste. Dernier point, user et abuser du collaboratif. User et abuser de votre lignée, mais user et abuser du collaboratif, c'est-à-dire faites en sorte de ne pas être, entre guillemets, le chef d'orchestre ou plutôt l'interlocuteur principal. C'est-à-dire que dès que quelqu'un démarre dans mon réseau, j'essaye de créer ce que j'appellerais des ponts, des connexions entre les livres et lui, entre les CD audio et lui, entre les réunions et lui, entre ma lignée et lui. Quand je démarre quelqu'un personnellement, je peux vous dire que dans les 48, 72 heures, je veux qu'il ait un contact avec Michel Abazor. Parce que je suis pas magicien. En tout cas, si le discours passe plus, je veux qu'il ait une autre personne qui puisse le contacter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, utilisez tous les leviers qui sont mis à notre disposition. Et, justement, je suis pas magicien, mais ma conclusion, c'était de vous proposer de devenir des magiciens. Je vais conclure en vous disant que, voilà, il faut devenir des magiciens. C'est vraiment important. Pourquoi des magiciens? Parce que, il y a quelques jours de ça, on a fait une remise de challenge et on a fait venir un magicien. Moi, j'adore les magiciens. Vous savez pourquoi? Parce que il fait des tas de trucs, on sait pas comment il a fait, mais les gens font waouh. Et en fait, par votre enthousiasme, par votre envie, par votre volonté, par vos convictions, quand les gens vous voient, c'est comme un magicien, ils comprennent pas tout, quoi. Mais il faut qu'ils fassent waouh. Il faut que les gens à votre contact, si vous voulez construire des relais, si vous voulez dupliquer, si vous voulez construire à distance, vous avez besoin que des gens se prennent en main parce qu'ils ont une motivation intrinsèque et qu'ils soient inspirés et non pas seulement motivés de façon éphémère. J'aimerais que vous ressortiez de cet événement en vous disant vraiment, je suis venu à cet événement et j'ai eu quelque chose qui s'est passé, un déclic, une décision, c'est ce que je vous souhaite, et que vous puissiez ressortir de là pour amener cette énergie auprès des gens qui vont vous rencontrer, et quand quelqu'un vous croise, la personne se dise « mais moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire partie de ce collectif, j'ai envie de construire une grande affaire internationale, je veux faire partie de l'équipe, je veux que des choses changent dans ma vie ». Et si vous avez ça au fond de vous, vous allez construire une grande organisation, et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci et bonne journée.